Finalement, et non le moindre, la musique affecte avec une grande puissance l'esprit. Aussi loin dans l'histoire que nous pouvons remonter, nous trouvons que les sociétés connaissaient et réalisaient la puissance spirituelle de la musique. Aussitôt qu'en 2500 ans avant Jésus-Christ, des observations sur les effets de la musique sur l'esprit, le corps et les émotions ont été écrites sur des papyrus par les Égyptiens. De même, les civilisations anciennes chinoises croyaient que la musique était à la base de toute chose. Confucius a même dit, par exemple, si une personne désirerait connaître si un royaume était bien dirigé, si sa moralité est bonne ou mauvaise, la qualité de sa musique fournira la réponse. De même, la musique hindoue était bâtie sur ce concept spirituel. C'était bien sûr une mauvaise spiritualité, mais ils joignaient les deux si étroitement qu'ils avaient, et ont toujours, l'intention d'influencer les personnes spirituellement à travers leur musique. La musique Nouvel Âge est bâtie sur ce même principe, que la musique détermine notre spiritualité. De plus, les Grecs croyaient la même chose. Platon disait: l'introduction d'un nouvel genre de musique doit être évitée comme danger pour tout l'État, puisque les styles de musique ne sont jamais perturbés sans affecter les plus importantes institutions politiques. Et encore, en ordre de prendre la température spirituelle d'un individu ou d'une nation, il faut marquer la musique. Aristote disait: la musique représente les passions ou l'état de l'esprit. Gentillesse, colère, courage, tempérance. Si quelqu'un écoute la mauvaise sorte de musique, il deviendra la mauvaise sorte de personne. Dans son livre, David Thame montre comment, pour chaque civilisation qui sont tombées en décadence générale, le point commun était la décadence dans la musique qui a initié toute la décadence. Que ce soit les Grecs, les Romains, jusqu'à nos jours. Ouvrons nos yeux car c'est en plein ce qui est en train de se passer. J'ai même lu que certains grands musiciens et poètes de la fin du 19e siècle commençaient déjà à prédire la décadence en Angleterre et aux États-Unis, que nous voyons présentement. Mais revenons. Finalement, les grands compositeurs des siècles passés en disaient autant. Par exemple, Claudio Monteverdi, au 17e siècle, disait: le but ou résultat final de toute musique est d'affecter l'esprit. Jean-Sébastien Bach, ce grand compositeur chrétien, a dit au 18e siècle: le but et la raison d'être de toute musique devraient être nul autre que la gloire de Dieu et le rafraîchissement de l'esprit. Robert Schumann, au 19e siècle, disait: la musique est l'expression parfaite de l'esprit. Ça laisse rafraîchir. La musique est donc à la fois un thermomètre et une influence spirituelle pour une nation, une église, un individu. L'Amérique du Nord est caractérisée par la musique qui y est jouée. Décadence morale, confusion, immoralité. Les Hindous sont caractérisés par leur musique aussi. Une musique qui encourage de croire dans la réincarnation et dans toutes ces choses relatives. La musique africaine révèle leur perversité et leur idolâtrie, etc. Une nation est caractérisée par la musique qui y est jouée. De même, par la musique, on peut voir quand une église commence à glisser vers le monde et à s'écarter de la bonne doctrine ou de sa mise en pratique. Pour une personne, un individu, c'est la même chose. Comme le dicton dit: dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es. C'est d'autant plus vrai avec la musique. Dis-moi quelle musique tu écoutes et je te dirai qui tu es. Vous allez dire, c'est des paroles dures, mais elles sont vraies. J'aimerais quand même ici faire une grande distinction. La musique ne reflète pas la marche avec Dieu, mais plutôt le discernement spirituel. Tout simplement parce que quand on devient chrétien, ce n'est pas automatiquement qu'on peut distinguer le mal du bien. On doit avoir une conscience pure devant Dieu, selon la connaissance qu'on a, mais on a beau sincèrement croire qu'on est en bonne relation avec Dieu, si cette relation ne repose pas sur la vérité, on est trompé et séduit, et on se ment nous-mêmes. Notre relation avec Dieu n'est pas complètement séparée d'avec notre discernement spirituel, car à mesure qu'une personne grandit en discernement et en connaissance, sa relation avec Dieu s'approfondit. Si, bien sûr, cette personne agit selon cette connaissance que Dieu lui a donnée. Et vraiment, pour être exact, ce n'est pas vraiment que la musique reflète ce qu'il y a dans le cœur, mais la musique va déterminer ce qu'il y a dans le cœur, et par le fait même le refléter. Donc la musique a cette puissance grandiose, incroyable, subtile, au-delà de notre compréhension. Mais qu'en dit la Bible? Actuellement, si je n'avais rien trouvé sur la puissance de la musique dans les Écritures, je me serais posé de grandes questions. Alors, on va tourner dans un passage qui, dans sa forme concentrée, nous donne exactement ce qu'on retrouve dans l'histoire et dans la nature. 1 Samuel 16, 14 et 17, et verset 23. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, et tu seras soulagé. » Premièrement, j'aimerais juste qu'on remarque comment ils ont tout de suite pensé à un musicien. Ah, il y a un problème. Ah, il y a un mauvais esprit sur toi. Ah, on va t'amener un musicien. Et puis tu vas être correct. Tu vas te sentir mieux. Ils ne doutaient pas que la musique avait une valeur curative. Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » Saül ne les considère pas fous, trouve l'idée bonne. Il trouve que c'est normal que la musique a une valeur curative. Et au verset 23, il dit, « Et lorsque le mauvais esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. » En un noyau de vérité, Dieu confirme ce que nous avons appris dans la nature, que la musique a un puissant effet sur le physique, quand il dit « il respirait alors plus à l'aise », les émotions, quand il dit « il se trouvait soulagé », et sur l'esprit. Le mauvais esprit se retirait de lui. Mais, un grand mais, 1 Samuel 18, 10 et 11 nous dit, le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui deux fois. L'influence de la musique ne semble pas avoir marché dans ce cas-là. En vrai, elle n'a que trop bien marché. Parce que la musique n'est pas magique. Elle n'enlèvera pas la rébellion de quelqu'un si ce quelqu'un cherche encore à se rebeller, même quand il est placé sous une bonne influence. Ce qui nous amène encore à conclure, la question n'est pas la musique, mais le cœur. C'est le cœur. Et si on veut se donner une bonne influence, on va en bénéficier. Mais si notre cœur est méchant, qu'on écoute une bonne musique, ça ne va pas nous rendre une bonne personne, ça va juste nous fâcher d'être soumis à une bonne influence. Ainsi, nous avons vu que la musique affecte avec puissance, une puissance subtile, le physique, les émotions et l'esprit. Notre deuxième point à voir sur la nature de la musique nous explique un peu pourquoi elle est si puissante. Parce qu'elle a une nature éternelle. La musique est éternelle. Je dis qu'elle est éternelle parce que, premièrement, elle nous vient du ciel. Elle ne compte pas parmi la création de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est musical. Êtes-vous surpris? À y penser, on ne devrait pas être surpris quand on réalise que nous, les humains, avons une nature musicale. Tous les peuples, toutes les sociétés connues ont toujours une musique, et il est naturel pour l'homme d'avoir une musique. Et cette nature musicale doit bien nous venir de notre Créateur. Mais tournons dans Sophonie 3:17 pour voir ce que la parole mentionne sur le sujet. L'Éternel est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Le terme « garder le silence dans son amour » serait mieux traduit par « demeurer dans son amour ». Le « demeurera dans son amour », c'est le même sens. Et le terme « transport d'allégresse » est souvent, la plupart du temps, traduit dans les psaumes, par exemple, par « chanter », au sens de « chanter de joie ». Littéralement, c'est faire des sons ondulants de joie, qu'on peut comprendre facilement comme « chanter ». C'est dommage que la traduction française n'inclut pas ce détail intéressant qui se retrouve dans les différentes traductions anglaises, par exemple. Dieu chante de joie pour son peuple. Aussi, psaume 22,4 dit « Pourtant, tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Ce mot « louange » est en fait l'idée de « louange chantée ». C'est inclus dans le terme, dans la langue originale. On remarque qu'il y a souvent, pour ne pas dire la plupart du temps, une présence musicale autour de Dieu. Prenez par exemple Exode 19,13, 16 et 19. Le contexte, c'est Dieu qui se manifeste à son peuple sur le mont Sinaï. Et ça m'a surpris au début, mais je me demandais pourquoi est-ce qu'il y avait une trompette qui sonnait en arrière-plan de plus en plus fort, comme dit le texte. Là, on voit encore, Dieu se manifeste sur le mont Sinaï au son de la trompette. On sait aussi, par ailleurs, que les anges chantent devant Dieu, constamment dans les cieux. Dans Isaïe 6, 1 et 5, et Apocalypse 4, 8 et 9, ça nous est donné le contexte saint, saint, saint et l'Éternel, le Dieu des armées, etc. Et il est généralement reconnu que ces deux passages réfèrent aux anges qui chantent ce verset, par le sens de parler, communiquer et de chanter. Job 38,7 aussi parle de la louange chantée que lui offrent les anges. Exode 15,2 dit « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. » C'est un petit verset qu'on chante, si certains de nous connaissent le chant. Littéralement, on lit « L'Éternel est ma force » et « chant de Jéhovah » dans un mot comprimé, « et il est devenu pour moi salut. » Cette expression exprime bien le lien étroit entre Dieu et la musique. Les traducteurs sont un peu obligés de jouer avec cette expression pour le rendre comprenable. En français, ils le traduisent par « il est le sujet de mes louanges », mais il y a plus que ça. En anglais, ils le traduisent « il est mon chant », qui est un peu plus exact. Cette expression exprime le lien étroit entre Dieu et la musique. D'ailleurs, le terme pour chant en est un pour une musique instrumentale d'accompagnement. L'expression est même plus forte que « Dieu est musical ». Il dit tout simplement « Dieu musique », comme si c'était compris d'avance. Un détail aussi intéressant est que ce verset est répété jusqu'à 3 fois dans la Bible, une fois chaque section de l'Ancien Testament. On se rappelle que l'Ancien Testament était connu comme la loi, les psaumes et les prophètes. Or, ce verset se retrouve dans la loi, Exode 15:2, dans les psaumes, dans psaume 118:14, et dans les prophètes, Ésaïe 12:2. Quoiqu'un verset n'a certainement pas besoin d'être répété trois fois pour être considéré, inspiré et utile, il faut quand même penser que Dieu n'aurait pas souligné ce verset pour rien. À vrai dire, ce que je vous ai partagé sur ce verset-là, je ne peux pas vraiment moi-même le vérifier, n'étant pas un érudit en hébreu. Mais je vous partage ce que certains érudits hébreux en disent. Aussi, Dieu a préparé des instruments pour ses anges. Ézéchiel 28, 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Remarquez qu'il mentionne bien des instruments, et non la musique elle-même, qui va bien avec le fait que la musique est éternelle. Ceci dit, il faut que je mentionne que les termes en hébreu pour tambourin et flûte ne sont pas si clairs et leurs sens exacts sont assez obscurs. Mais si l'on se fie à la plupart des traductions, il est reconnu qu'il s'agit bien d'instruments de musique. Par ailleurs, Job 38, versets 4 et 7 dit « Où étais-tu quand je fondais la terre, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse? Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Les anges célébraient Dieu par la musique, avant qu'il ne crée la terre. » Finalement, elle est éternelle, car c'est une des seules choses qui vont nous suivre l'autre bord. On n'amènera pas notre argent, ni nos vêtements, ni nos livres, ni nos sports, mais la musique, elle, va y être. Je ne dis pas qu'on va amener notre musique qu'on a ici-bas, mais elle va se retrouver là-haut. N'est-ce pas merveilleux? Et je ne vous apprends rien de neuf quand je vous dis qu'elle est destinée au ciel. Apocalypse 5, 8 et 9, et 14 et 4 disent toutes, « Ils chantaient un cantique nouveau. » Et ils parlent longuement de l'Apocalypse parle longuement de « on va chanter au ciel, on va aimer ça, et ça va être magnifique de pouvoir chanter à notre Dieu qui va être devant nous. » Quelle merveille! Et nous savons que ce qui rentre au ciel va durer l'éternité. Mais aussi, et là, ça se peut que je vous apprends quelque chose de nouveau, car cela a été pour moi il y a quelques mois, elle est destinée aussi en enfer. Oui. Et pourquoi pas dans un sens, si elle est destinée soit au ciel, pourquoi pas aussi en enfer? C'est logique. Mais qu'en dit la Bible? Beaucoup. Ésaïe 14:11 dit, et dans le contexte, il parle directement de Babylone, et indirectement de Satan, « Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes, sous toi une couche de vers, et les vers sont ta couverture. » Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. À noter qu'il ne parle pas de ses instruments, mais bien du son musical lui-même. Il le spécifie avec le son de tes luttes. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas comme ils vont souffrir au son de leur groupe préféré. Non. Mais la destinée de la musique de Satan est de périr en enfer. Elle va être jugée. Alors, d'une manière plus compréhensible, je crois que Dieu nous enseigne par ce verset, entre autres, parce qu'il y en a d'autres, qu'il réserve un jugement à la musique. Et à ce sujet, il y a maintes versets. Ézéchiel 26, 13 dit, par exemple, en jugement contre Tyr, « Je ferai cesser le bruit de tes chants, et l'on n'entendra plus le son de tes harpes. Je ferai de toi un rocher nu, etc. » Encore une fois, ce n'était pas les instruments qui étaient mis en cause, mais bien le son musical que ces instruments émettaient. Parallèlement, Dieu, en Amos 5, 23, dit à son peuple qu'il jugeait « Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. » Un dernier exemple à noter est Apocalypse 18, 22, qui est, notons-le bien, et ce par quoi Dieu termine son enseignement sur la musique. C'est la dernière mention de musique dans la Bible. Dans le contexte, Babylone la Grande est jugée pour ses péchés. Entre autres, on n'entendra plus sa musique. Il dit, on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs des harpes, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. Aussi, dans ce jugement, si vous rentrez dans le contexte, il va parler des marchands, etc. Il ne parle pas juste des musiciens, mais ils sont inclus. Bref, Dieu réserve un jugement sur la musique. Cette dernière est destinée soit au ciel, soit en enfer. Une simple conclusion à laquelle on peut arriver est que la musique est ultimement soit de Dieu, soit du diable. Dernièrement, la musique a une qualité morale. Ce que nous avons déjà vu a pointé avec autorité vers cette conclusion. En effet, quand on influence soit vers le bien, soit vers le mal. On n'influence jamais d'une manière neutre. Certes, certaines influences sont plus édifiantes que d'autres, tout comme certaines mauvaises influences sont pires que d'autres, mais c'est toujours d'un côté ou de l'autre. Et rappelons-nous que seulement la musique qui influence, mais elle détermine même la direction morale d'une société ou d'un individu. Et aussi, ce qui a une nature éternelle a automatiquement une qualité ou une valeur morale. À titre d'exemple, comment la musique peut être utilisée à une fin immorale, nous allons regarder dans Ésaïe 23, 15 à 17. En ce temps-là, Tyr tombera dans l'oubli 70 ans. Ce que dure la vie d'un roi. Au bout de 70 ans, il en sera de Tyr comme de la prostituée dont parle la chanson. Prends la harpe, parcours la ville, prostituée qu'on oublie. Joue bien, répète tes chants pour qu'on se souvienne de toi. Tyr avait été oublié pour 70 ans. Alors, pour être reconnue comme une prostituée, elle devait prendre sa harpe et bien jouer. Joue bien est une excellente traduction de l'hébreu, car c'est écrit dans le sens de jouer habilement un instrument de musique. Bien entendu, elle chantera en jouant, mais il est intéressant de noter qu'il ne dit pas « chante bien », mais bien « prends la harpe et joue bien ». Ce n'est pas seulement ses chants, mais aussi bien sa musique qui vont la remettre dans la pensée des gens comme une prostituée. Ici, la musique a communiqué une idée immorale. Ainsi, ouvrons nos yeux, mes frères. On a vu l'évidence. La musique affecte tout notre être entier avec une grande puissance. Elle est éternelle et elle implique bien entendu la moralité. On doit faire attention à ce qu'on laisse rentrer. Dieu nous a confié un bijou, notre vie qui implique notre corps, notre intelligence et notre esprit. Sanctifions tout notre être, comme dit 1 Thessaloniciens 5, 23. Et soyons certains de nous abstenir de ce qui est mauvais et d'écouter seulement ce qui est bon pour nous. Ceci termine notre première section sur la nature de la musique. La prochaine section traitera plus sur une bonne philosophie biblique de la musique et la mise en pratique des principes de base musicaux. Pour le restant de cette première cassette, j'aimerais vous donner l'occasion d'entendre une partie du moins, des extraits que je vous laissais entendre entre les parties, entre les sections dont on a vu. Alors, c'est une musique écrite et par Vivaldi.
Thank you.